Le journal Tom Bullman, bonsoir.
Bonsoir. Une machine de déminage de la fondation Diguer à Tavannes est arrivée en Ukraine ce mardi. Dans un contexte géopolitique tendu, on peut se poser la question de la neutralité de cet envoi. Frédéric Guerne, le directeur de la fondation, y répondra. Le PS a annoncé Mathias Ebischer pour la course à la succession d'Alain Berset, un candidat très apprécié par le Parlement. Notre correspondant à Berne, Serge Jubin, dressera son portrait dans ce journal. La reprise du championnat arrive à grands pas pour le HC Bienne. Après une préparation intense, les Seylandais soignent les derniers détails avant de se rendre à Lugano pour la première. Du côté du ciel, il devrait se dégager pour cette nuit. Pour demain, le temps sera ensoleillé malgré les passages de quelques bandes de grisaille. Les températures, elles, se situeront entre 12 et 24 degrés pour la région. La fondation Diguer, basée à Tavannes, a pu livrer une démineuse en Ukraine. La machine est arrivée mardi et servira à sécuriser des terrains équivalents à 4 fois la taille de la Suisse. L'outil est destiné avant tout aux zones agricoles situées loin du front. Il a fallu 7 mois pour négocier et organiser cet envoi, notamment à cause de la question de la neutralité. Frédéric Guerne, directeur de la fondation, explique pourquoi il n'y a pas à s'en inquiéter.
On travaille depuis 25 ans maintenant dans des contextes post-guerre, en fait. On est quand même toujours dans des situations assez critiques. Et pour nous, la meilleure protection, elle est très technique, c'est que nos machines ne font que du 6 km/h. Quand elles déminent, elles avancent à un maximum de 1 km/h. Moi, je réponds souvent avec un argument très ingénieur à cette question, en disant ben, 1 km/h, ce n'est pas une arme, c'est une cible. Ça n'a pas de sens. Le monde du déminage militaire, purement militaire, offensif, a leurs propres machines, mais on parle d'autres machines. Donc en fait, la grande problématique vient principalement des gens qui ne connaissent pas, qui s'inquiètent, qui mélangent. Et puis là, on nous a aussi amené des questionnements quant au fait qu'on pourrait peut-être préparer les zones avant invasion. Et à un moment donné, on ne peut plus répondre. À un moment donné, ben oui, alors vous aidez ou vous aidez pas. La prise de risque, elle doit aussi, à un moment donné, être relativisée.
La machine a été livrée sur place avec l'aide de Van for Life. L'entièreté de l'opération, qui se monte à 1,2 million, a été financée par l'armée suisse. Une autre machine de la Fondation Diguer devrait arriver en Ukraine d'ici la fin de l'année. Un succès financier pour la fête de lutte cantonale bernoise de Tramelan qui profitera au club organisateur. Le comité d'organisation indique que le FC Tavannes Tramelan, le HC Tramelan, le club de lutte de Tavannes et environ et l'association régionale de lutte se partageront les 140 000 francs de bénéfices qu'ont engendré la fête. Deux personnes ont été gravement blessées dans une explosion entre Saulcy et Lajoux. Les faits se sont produits ce matin vers 6h50 à proximité d'une ferme isolée. Un van à chevaux aménagé en habitation a explosé. Le gaz pourrait être la cause de la déflagration selon nos informations. Deux personnes ont été blessées par des brûlures dues à l'accumulation de chaleur survenue à la suite de l'explosion. Elles ont été transportées dans des hôpitaux universitaires par des hélicoptères de la Réga. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'explosion. Le bostriche devrait proliférer ces prochaines années dans les forêts des montagnes neuchâteloises impactées par la tempête du 24 juillet dernier. Les autorités cantonales ont fait le point ce matin sur la situation, 50 jours après que les éléments se sont déchaînés. 1600 hectares de forêt et des pâturages boisés ont été impactés. Le canton a réservé un montant de 530 000 francs pour appuyer les propriétaires forestiers. Il a également sollicité à l'appui de la Confédération à hauteur de 700 000 francs. Avec l'aide du fonds suisse qui des contributions pour des dommages causés par des phénomènes imprévisibles et qui ne peuvent pas être assurés. Entre 70 et 80% des charges pourraient ainsi être couvertes. Le point sur ce qu'il adviendra des 49 000 mètres de cubes de bois couchés par la tempête avec l'ingénieur forestier cantonal Pierre Alfter.
Principalement, ça sera valorisé sous forme de bois énergie. Donc ce bois sera déchiqueté sous forme de plaquettes qui sont utilisées après dans des centrales de chauffage à distance. On a encore sur le sol une partie du bois qui pourra être valorisée sous forme de grumes, donc des bois qui seront sciés, mais on estime à peu près à 20% du volume. Et puis le reste va être laissé sur place parce que actuellement le marché des bois ne permet pas d'exploiter l'ensemble des volumes sans faire du déficit. Le bois laissé en forêt fait partie du cycle normal de l'environnement forestier. Donc c'est du bois qui va se décomposer, qui va relibérer des nutriments aussi au niveau du sol et puis favoriser bien sûr la croissance de la forêt de demain.
La tempête a touché 90 exploitations agricoles, dont 60 fortement. 20 têtes de bétail y ont laissé la vie. Le secteur a bénéficié d'un bel élan de solidarité, notamment de la part des citadins. Place à l'actualité nationale, un troisième candidat socialiste à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral est sorti du bois aujourd'hui à Berne. Le conseiller national bernois Mathias Ebischer, 56 ans au Parlement depuis 12 ans. C'est un ancien journaliste de la télévision alémanique. C'est un sportif et c'est surtout un politicien qui s'applique à travailler en équipe plutôt qu'en solo. Il est l'opposé en quelque sorte du Zurichois Daniel Josic, lui aussi candidat au Conseil fédéral. Le troisième prétendant est le Balois Mustapha Atici. Les explications de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Mathias Ebischer, c'est du lourd, du très lourd même, et c'est surtout un parlementaire qu'on apprécie, à gauche comme dans tout le Parlement, tout le contraire de Daniel Josic qui clive et qui donne l'impression de ne rouler que pour lui. Le Bernois s'est d'ailleurs présenté ce jeudi comme le membre d'une équipe. L'ancien journaliste Mathias Ebischer a d'excellentes chances de figurer sur le ticket socialiste lors de l'élection au Conseil fédéral le 13 décembre. Éternel jeune, il aura pourtant 56 ans en octobre, Mathias Ebischer exprime sa motivation.
C'était pas facile. Cette candidature, il y a certaines questions. J'ai clarifié ces questions avec ma famille, ma femme, mais aussi avec mon parti cantonal et national. Et je peux dire aujourd'hui, j'ai tout réglé. Ça veut dire que ma femme, Tiana Moser, et ma famille me soutiennent à 100%. Je pense avoir toutes les compétences nécessaires pour ce poste et surtout la volonté d'apporter des solutions aux dossiers importants actuels comme la santé, l'énergie et aussi les relations avec l'Europe.
Des avantages pour Mathias Ebischer, il y a déjà un Bernois au Conseil fédéral, Albert Rusty, mais plus rien n'interdit d'avoir deux ministres dans le même canton. Mathias Ebischer est marié à une autre star de la politique en Suisse alémanique, la conseillère nationale vert libérale zurichoise Tiana Moser. Leur famille recomposée compte 7 enfants, dont plusieurs adultes, 2 fois 3 d'un premier mariage et une dernière fille qu'ils ont eue ensemble il y a 4 ans. Est-ce possible d'être marié-femme au Conseil fédéral et au Parlement, peut-être même au Conseil des États, puisque Tiana Moser brigue un siège zurichois à la Chambre haute, Mathias Ebischer.
On a une loi, là-dedans c'est tout réglé. Une personne d'un couple peut être dans l'exécutif et l'autre peut être au Parlement, ça joue. Et ça ne dépend pas si elle est conseillère nationale ou conseillère aux États.
Aux 3 candidats socialistes déjà déclarés devraient venir s'ajouter encore une ou 2 personnalités, comme le conseiller d'État Balois Beatians ou le grison Yon Pult. Les prétendants doivent s'annoncer jusqu'au 29 octobre. Le ticket officiel du groupe socialiste sera élu le 25 novembre.
Et l'élection du nouveau conseiller fédéral est planifiée le 13 décembre. Le Parlement veut promouvoir de nouvelles formes de mobilité, par exemple le transport à la demande ou la mobilité partagée. Après le national, le Conseil des États a transmis aujourd'hui au Conseil fédéral une motion demandant un plan d'action fédéral en la matière. Toujours dans la mobilité, CarPostal pourrait enregistrer une fréquentation record cette année. L'entreprise de transport se remet plus rapidement que prévu des années de pandémie. Si la tendance se confirme, les résultats de fréquentation pourraient dépasser ce record de 2019. Dans le monde, 8 experts de la Croix-Rouge suisse sont partis pour le Maroc. Ils aideront le Croissant-Rouge marocain à assurer la logistique, à prendre en charge les avions cargo qui atterriront à Casablanca et à dédouaner les marchandises. L'ONG suisse a également mobilisé 750 000 francs pour l'aide d'urgence avec l'appui de la Confédération. Selon un nouveau bilan, le séisme a fait plus de 2900 morts et 5600 blessés. La plupart des décès des inondations en Libye auraient pu être évités, c'est ce qu'estime l'ONU. Selon elle, le conflit qui a eu lieu dans le pays affecte les services météorologiques. Elle met également en cause l'inaction des autorités en charge de la gestion des désastres. Par ailleurs, le comité international de la Croix-Rouge déploie davantage de personnel dans le nord-est de la Libye. Des distributions de médicaments, de nourriture et de matériel pour des milliers de ménages vont avoir lieu, a annoncé aujourd'hui l'organisation.
Merci d'être avec nous sur RJB 18h09.
Sport. Le HC Bienne est prêt à passer aux choses sérieuses. Les hockeyeurs zélandais ont rendez-vous à Lugano demain dans le cadre de leur premier match de la saison de National League. Après un titre de vice-champion de Suisse acquis au terme d'une saison rallongée, les Biennois ont bénéficié d'une préparation plus courte, mais dense. Il a déjà fallu s'adapter au nouvel entraîneur, Petri Matikainen, mais aussi se faire au rythme de la Ligue des Champions. Au total, 7 matchs ont été joués sur ces 5 dernières semaines. 4 défaites zélandaises pour 3 victoires, dont 2-2 en Ligue des Champions, mais peu importe les chiffres pour le capitaine Gaëtan Haas.
Disons que la force du HC Vienne, ça n'a jamais été les préparations, donc On a vu l'année passée, ça ne s'est pas très bien passé. Cette année, on a plus ou moins mal commencé. Et heureusement qu'il y a cette Champions League pour je dirais, avoir un objectif pendant ces matchs. La Champions League, c'est quelque chose de très cool à jouer. Je veux dire, on joue contre les meilleures équipes d'Europe. Donc ça amène une motivation qu'on n'a pas forcément pendant les matchs de préparation normaux. On a bossé dur tout ce mois. C'est clair que les premières deux semaines, c'était compliqué. On a vu qu'il manquait quand même presque un mois de préparation physique. Donc on a ajusté les entraînements pour bosser plus et être prêt au jour J, donc vendredi. Je pense qu'on a fait du bon job. Malgré les matchs de Champions League, on a quand même bossé à l'entraînement. Donc c'est pas qu'on est arrivé à chaque match de Champions League avec des jambes toutes fraîches, mais on a fait le job pour être prêt, on va dire, sur la longueur.
Et justement, il faudra être prêt sur la longueur car ce championnat de National League est toujours très long et sinueux. Et en plus de s'affûter physiquement, il a fallu s'adapter à de nouvelles méthodes d'entraînement avec l'arrivée de Petri Matikainen. Pas toujours évident dans ces conditions, selon notre consultant Marc Canaparo.
Alors, en général, le changement d'entraîneur, il se fait quand une équipe, elle va pas, quand il y a des problèmes au sein de l'équipe. L'année passée, bien, ils sont vice-champions, c'est un autre changement. Donc, je pense pour le coach, c'est pas non plus facile d'arriver dans une équipe où tout allait bien. Donc, voilà, il y a un gros challenge pour le nouveau coach. Et puis, c'est à lui de mettre son système en place et puis que ça prenne avec les joueurs. C'est clair qu'avec NT, il y avait beaucoup plus de liberté dans le jeu. Faudra voir si certains joueurs, ça va peut-être les pousser plus en avant, d'autres peut-être un peu plus en arrière. C'est des professionnels, ils devront se mettre à écouter ce que le coach dit, puis travailler ensemble.
Et voilà le HC Bien donc, qui aura à cœur certainement de faire aussi bien que l'année passée, voire même encore mieux. Mais cette année, la tâche s'annonce encore colossale, surtout quand on voit les effectifs des autres équipes. On pense notamment à un retour de Denis Malguin à Zurich. C'est un championnat qui est encore un peu plus monté d'un cran, selon vous.
Oui, tout à fait. On a vu que chaque équipe s'est renforcée fortement au niveau effectif suisse ou étranger. Donc chaque année, le niveau, il monte d'un cran. On a vu au final, l'année passée, le niveau, il était énorme. Donc on peut que se réjouir que notre championnat, il évolue du côté positif.
Un dossier réalisé par Loïc Georgi et Olivier Zano. Lugano Bient sera une rencontre à vivre en direct sur RJB demain. En attendant, vous retrouverez un dossier complet sur cette reprise sur notre site internet. Et vous avez également l'occasion d'écouter la Stammtisch, l'émission qui parle du HC Bien, dès 20h. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et pour votre fidélité et je vous souhaite une excellente soirée.